Radio Kapi. À la présentation du journal Grâce Hamzati.
À la une de l'actualité, bientôt des mesures fortes pour lutter contre les inondations à Kinshasa. Elles vont aller jusqu'à la démolition de toutes les infrastructures érigées dans les zones non constructibles. C'est ce qui ressort de la séance de travail ce mardi entre le président de la République, Félix Tshisekedi, et la cellule de crise sur les inondations. L'ambassadeur de Belgique en RDC s'insurge contre l'occupation armée, l'exploitation illégale des ressources et la souffrance des populations au nord et au sud Kivu. Roxane de Bilderling s'est ainsi exprimée à Beni au nord Kivu, où elle a été reçue ce mardi par le gouverneur du nord Kivu, le général Évariste Kakule-Somo. Des détails dans ce journal. En Ituri, plusieurs ponts et passerelles sont endommagés à travers la ville de Bounia. Encore une fois, une conséquence des inondations causées par la montée des eaux des deux rivières. Situation qui affecte les interventions des forces de l'ordre dans la lutte contre la criminalité. Nous en parlons avec notre invité Robert Njalonga, coordinateur provincial de la protection civile. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République a dirigé ce mardi à la Cité de l'Union africaine une séance de travail avec la cellule des crises sur les inondations à Kinshasa et dans d'autres provinces de la RDC afin d'évaluer l'ampleur de la situation et de prendre des mesures urgentes. Selon la présidence de la République, dans quelques jours, cette cellule va annoncer des mesures prises, notamment la démolition de toutes les infrastructures érigées dans les zones non constructibles. On écoute Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, qui donne également le bilan des pluies du 4 au 5 avril dernier à Kinshasa dans cet extrait.
Il était donc question au cours de cette séance de travail de faire le point de la situation aujourd'hui au président de la République, principalement la situation des sinistrés. Un bilan a été fait, malheureusement 75 compatriotes sont décédés et plus de 11 000 sont sinistrés aujourd'hui qui sont hébergés sur 4 sites. De ce point de vue, le président de la République a donc encouragé les gouvernements. La cellule a été réunie hier par la première ministre pour passer en revue toutes ces questions et évidemment établir les états des besoins nécessaires pour y répondre. Le président de la République a encouragé le gouvernement a continué à apporter cet appui à nos populations qui ont été touchées. Le deuxième volet du sujet a été le volet maintenant de comment le gouvernement réagit et s'attaque aux causes qui ont conduit à ces inondations. Vous savez qu'on ne peut pas blâmer les catastrophes naturelles ou la pluie, mais il y a une grosse part de l'humain dans ce qui s'est passé.
Santé, au Kasaï-Oriental, 11 cas de tuberculose ont été détectés il y a quelques semaines à la prison centrale de Mbujimayi. L'alerte a été faite par la directrice de cette maison carcérale, affirme le ministre provincial de la Santé. Dr Daniel Kazadi-Chilumbay indique que ces cas sont pris en charge. Il signale par ailleurs que quelques crachoirs sont déjà disponibles pour organiser un dépistage massif afin de lutter contre la propagation de cette maladie. Dr Daniel Kazadi-Chilumbay, ministre provincial de la Santé, joint par Esther Ndalafina.
La directrice de la prison a donné une alerte parce qu'il a constaté qu'il y a beaucoup de cas de toux à la prison. Face à cette recrudescence de la toux, il a constaté qu'il y a un retard effectivement dans le dépistage de la tuberculose, alors qu'il y a suffisamment de cas de tuberculose confirmés qui sont encore en prison. Il y a environ 11 cas de tuberculose confirmés qui sont sous traitement. Et ils sont conscients qu'ils ont connu un retard dans le dépistage parce qu'il y avait en fait une rupture en crachoir. On vient en fait d'avoir un lot en crachoir, doit être récupéré rapidement. Ils ont la recommandation de récupérer ce retard-là parce qu'ils font le dépistage à la tuberculose 3-4 fois par an. Et depuis qu'ils ont fait depuis le mois de novembre, et vous comprenez que ce dépistage devait être fait entre janvier et février. Voilà, nous sommes au mois d'avril, sans dépistage. Alors, il y a ce programme-là de faire des dépistages massifs de manière régulière. La directrice qui avait bien agi en faisant cette alerte.
Parlons de la journée porte ouverte hier mardi à la zone économique spéciale de Maluku, ici à Kinshasa. Cette activité était organisée à marge de la célébration des 10 ans de l'existence de l'Agence des zones économiques spéciales, AZES, créée pour faciliter l'industrialisation de la RDC. Sur 10 entreprises qui doivent s'installer dans la zone, 2 sont déjà opérationnelles et fabriquent respectivement les carreaux et les boissons sucrées. Des détails avec Askin Zigbiata Yoro qui a visité cette zone économique.
La visite guidée dans la zone a permis au public de palper de doigts la réalité de la production de la société Saphir Céramique. Cette entreprise produit 50 000 mètres carrés de carreaux par jour. L'autre société, c'est Varum Beverage, qui produit plus d'un million de bouteilles de Pepsi par jour. Un succès qu'affirme le directeur général de l'agence de zone économique spéciale, qui a joué un rôle important d'attraction d'investissement. Ogi Bolandamenga.
Aujourd'hui, cette étape, c'était pour faire voir de manière pratique que les zones économiques spéciales, ce n'est pas seulement de la théorie. Ici, nous avons déjà signé avec 13 entreprises qui ont déjà commencé la production. Il y en a d'autres aussi qui vont venir au courant de mois à venir.
Sur place, l'usine de Pepsi compte près de 600 travailleurs, dont une bonne partie sont des jeunes venus de la commune de Maluku. Monanganga Natrésor, un des chefs coutumiers de Maluku, reconnaît l'impact de la zone économique spéciale.
En bref, nos enfants étaient des chômeurs. Maintenant, ils ont du travail. Ils ne pourront plus venir nous déranger à la maison. Nous sommes rassurés qu'ils vont commencer à recevoir des salaires.
La zone économique spéciale de Maluku est butée au problème d'espace. L'agence devra identifier d'autres nouveaux sites pour absorber une forte demande des entreprises qui veulent investir en RDC.
Merci à vous, Askin Zigbia Tayoro. Et puis, poursuite ce mercredi des travaux du dialogue national sur la gouvernance minière dans un contexte de conflit en RDC. À l'initiative du comité de crise pour la paix et la sécurité, ce forum se propose de développer un narratif commun, un plan d'action et des mesures d'accompagnement de la société civile pour un plaidoyer efficace au niveau national, régional et international. Plus de détails avec vous, Blaise Ndongala Mayanda.
Les participants à ces travaux, au moins 120, dressent un état des lieux de la gouvernance minière dans l'est du pays. De nombreux panélistes défilent à la tribune de ces dialogues pour scruter la situation minière dans la partie est de la RDC. Les premiers intervenants planchent sur les impacts des conflits liés à l'exploitation minière sur les droits des femmes, des enfants et des communautés locales. Les panels spéciaux sur les cobalt développent la thématique sur l'évaluation des initiatives sur les minéraux stratégiques ainsi que les impacts de mesures prises sur les cobalt en RDC. La société civile du site Kivu s'intéresse à la documentation des cas de pillage des ressources minières dans cette partie du pays. Cette deuxième journée se clôture sur le plaidoyer en faveur de la résolution du conflit dans l'est de la RDC, approche de la diplomatie citoyenne. Les participants à ces assises proviennent notamment de la présidence de la République, de la primature, du Parlement, du gouvernement central, des gouvernements provinciaux ainsi que de la société civile.
On ne peut pas accepter qu'un pays envoie ses troupes dans un autre pays pour l'occuper, pour prendre ses ressources et faire souffrir sa population. C'est l'ambassadeur de Belgique en RDC, Roxane de Bilderling, qui l'a dit ce mardi dans la ville de Beni, où elle a été reçue par le gouverneur du Nord Kivu, le général Évariste Kakule-Somo. Les échanges entre les deux personnalités ont porté notamment sur la guerre d'occupation menée par l'M23 AFC, soutenue par le Rwanda, et les priorités humanitaires, sécuritaires et infrastructurelles dans cette zone en crise. Roxane de Bilderling, dans cet extrait choisi par Martial Papimukeba.
On sait que c'est une province qui est occupée en partie, qui est encore face à de nombreux défis. Et le gouverneur m'a expliqué sa vision en trois piliers. Il y a un pilier évidemment humanitaire. Et donc le deuxième pilier, c'est évidemment le pilier des infrastructures. On a vu qu'il y a beaucoup de travaux qui ont déjà commencé pour élargir la piste d'aéroport. Ça permettra évidemment de reconnecter toute cette région avec le reste du pays, mais aussi avec la sous-région et d'apporter l'aide nécessaire. Et alors le troisième axe, c'est évidemment la sécurité. Et la Belgique a depuis le début de ce conflit adopté des positions très claires de condamnation de la guerre d'occupation, de demande de respect de l'intégrité territoriale de la RDC. La Belgique a été en pointe pour condamner, pour faire adopter aussi des sanctions. Et vous savez qu'aujourd'hui, on en subit aussi des répercussions sur le plan politique. Mais on l'assume parce que c'est une position qu'on prend pas pour faire plaisir à quelqu'un. Soyons bien clairs, nos positions, nous les prenons parce que nous estimons que ce sont des positions de principe. On ne peut pas accepter qu'un pays envoie des troupes dans un autre pays pour l'occuper, pour prendre ses ressources, pour faire souffrir sa population.
Toujours dans la région de Beni, la société civile du groupement des Bambouba Kisiki alerte sur la présence des présumés rebelles des ADF à Moutouéi, une localité située entre les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Selon Patrick Kaasa Moussoubao, son président, c'est hors la loi impose même des jetons aux agriculteurs pour pouvoir accéder à leurs champs, ce qui aggrave selon lui la situation d'insécurité dans la région. Cet acteur de la société civile recommande à l'armée et aux services de sécurité de tout mettre en œuvre pour mettre fin à cette présence des rebelles dans la région. Patrick Kaasa explique au téléphone d'André Kitenge.
Les ADF sont aux alentours de Moutouéi et ils ont imposé des jetons aux cultivateurs afin d'exploiter surtout leurs champs librement. Et voilà, si vous n'avez pas ces jetons-là, vous n'avez pas l'accès dans votre champ. Chose que nous déplorons également puisque nous ne sommes pas dans la jungle, nous sommes dans un pays bien organisé. C'est au service de sécurité de voir comment surtout finir avec ce phénomène également des jetons au niveau de Moutouéi, chose que nous déplorons. Et nous appelons surtout les services de sécurité de pouvoir prendre à compte et à considération toute alerte venant ici de la communauté pour au moins s'imprégner de la situation. Alors, nous regrettons une fois de plus de voir que la population et les membres de nos communautés sont en train d'être égorgés pendant que nous avons les différentes opérations dans la région, notamment l'opération Soudja de coalition de UPDF et FRDC et l'opération Sokola 1.
Contacté, le colonel Makazukai, le porte-parole des opérations Sokola 1 pour le Grand Nord, indique que l'armée a déjà pris toutes les dispositions pour mettre fin à cette présence des rebelles dans la région. Entre-temps, Oma Ndombe, un chef milicien Mobondo nommé Mpwembe, a été tué lundi au village Menko dans les territoires de Kwamout après avoir été capturé par l'armée. Ce colonel autoproclamé a été touché par balle lors des affrontements entre un groupe des assaillants et les éléments des FARDC, rapporte ainsi le porte-parole de la 11e région militaire Grand Bandundu. Le capitaine Anthony Mwalushai indique aussi que ces insurgés Mobondo sont responsables de plusieurs enlèvements des civils. On écoute le capitaine Anthony Mwalushai au micro d'Irene Bomaluzolo.
Un raid éclair mené par les forces armées de la République démocratique du Congo contre un campement du groupe armé Mobondo dans le village Menko, territoire de Kwamout, province du Maïndombe, a permis la capture de M. Mpwembe, chef rebelle et de son garde du corps, cependant. Au cours de leur transfert vers l'état-major de l'armée, les soldats congolais sont tombés dans une embuscade tendue par une autre faction du groupe rebelle. Des violents affrontements ont éclaté entre les assaillants et les FARDC. Au cours des échanges de tirs, le chef rebelle capturé a été mortellement atteint par balle. Son garde du corps, quant à lui, a été conduit sain et sauf à l'état-major pour interrogatoire. Pour rappel, le rebelle Mobondo sont responsables de plusieurs enlèvements des civils. Les derniers cas datent du samedi 12 avril où deux compatriotes ont été enlevés dans leur champ situé à 18 km à l'est du village Menko, le long du fleuve Congo.
Par ailleurs, à Ituri, l'Assemblée provinciale s'insurge contre la présentation le 11 avril dernier par le gouvernement d'un projet de loi portant sur l'habilitation de l'état de siège en vue de sa prolongation pour une période de 12 mois. Dans sa déclaration faite mardi à Bounia, cet organe délibérant en veilleuse estime que cette démarche est contraire à la réalité du terrain où, selon cette institution, l'état de siège a échoué à imposer la paix et la sécurité sur l'ensemble de cette province. Les députés provinciaux de l'Ituri exigent le paiement aussi de leurs émoluments. Martial Kiza Diamongo nous appelle de Bounia.
Réunis ce mardi à Bounia, tout en rejetant les projets de loi d'habilitation du gouvernement pour la prolongation de l'état de siège pour une période d'une année, ces élus de l'Ituri exigent la levée de ce régime spécial et la reprise immédiate des activités parlementaires dans la province. Dans leur déclaration, ils demandent également à Kinshasa de payer leurs émoluments. Dans les cas contraires, ils menacent d'organiser des actions de grande envergure dans les 5 territoires de l'Ituri. Des sources au gouvernorat des provinces affirment cependant que les autorités provinciales ont procédé ce mardi au paiement des émoluments des députés provinciaux et les frais de fonctionnement pour le mois de janvier à un montant total d'un peu plus d'1,154 milliard de francs congolais. Ce que confirme le président de l'Assemblée provinciale qui ajoute qu'il s'agit là des émoluments payés par le gouvernement congolais. Sami Diakonga précise que son institution continue à réclamer l'autre quotité émanant du gouvernement provincial sur base de ce que la province mobilise. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Cette information éducationnelle en plus bref. La ministre d'État en charge de l'éducation nationale, Raissa Malou, a publié depuis lundi le calendrier des épreuves certificatives 2025. Selon ce calendrier, la session ordinaire des épreuves de l'examen d'État se tiendra du lundi 28 au jeudi 31 juillet prochain. Durant les deux premières semaines du mois de juin, a-t-on appris, les différentes épreuves hors session de l'examen d'État seront organisées. En ce qui concerne l'examen national des fins d'études primaires ENAFEP, il va débuter mardi 1er juillet pour prendre fin le 10 juillet, alors que le test national des sélections et d'orientation scolaire et professionnelle TENASO-SP aura lieu du jeudi 17 au vendredi 18 juillet.
Actualité internationale.
C'est une affaire surprenante au Kenya. Quatre personnes ont été arrêtées pour avoir tenté d'exporter illégalement plusieurs milliers de fourmis vivantes pour les vendre à des collectionneurs en Europe ou en Asie. Deux jeunes Belges arrêtés à Nakuru dans le centre du Kenya, ainsi qu'un Vietnamien et un Kenyan à Nairobi sont accusés de possession illégale et de trafic de faune sauvage vivante.
L'invité.
Plusieurs ponts et passerelles sont endommagés à travers la ville de Bunyanituri. C'est la conséquence des inondations que la ville a connues avec la montée des eaux des rivières Nyamukau et Ngezi. Une situation qui affecte aussi les interventions des forces de l'ordre dans une ville où on note une forte montée de la criminalité urbaine. Radio Kapi reçoit bien entendu Robert Ndjalonga, le coordinateur provincial de la protection civile. Il s'entretient avec Jean-Claude Loki Dile.
Robin Jalonga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes le coordinateur de la protection civile en Ituri. La situation dans la ville de Bunia, vous l'avez noté, c'est un peu la hausse de criminalité avec des tueries et des bandismes armés. Quel constat faites-vous par rapport à ça?
Oui, effectivement, au courant de cette semaine 17 au 13 avril 2025, le service de la protection civile a été informé par les sources communautaires sur les cas de criminalité et de banditisme urbain au niveau des centres-villes, mais aussi des cas de vol isolés dans certains quartiers de la ville de Bunia. Et ce sont des éléments qui, depuis un certain temps, sembleraient avoir d'appel dans la ville de Bunia. Et les constats ou les évaluations, selon aussi les feedbacks communautaires, c'est que ce plus pendant la période des festivités que de tels cas de la hausse de criminalité ou de vol sont enregistrés dans la ville, mais aussi la deuxième hypothèse serait le fait que suite à la grâce présidentielle accordée par le chef de l'État qui aurait fait que un bon nombre de bandits qui étaient au niveau de la prison et qui seraient libérés et ces derniers reviendraient encore dans la même pratique de vol dans les différents quartiers de la ville de Bunia.
Un autre fait aussi, vous l'avez retenu dans votre rapport hebdomadaire, c'est le délablement de plusieurs ponts et passerelles à travers la ville de Bunia. Et cela a beaucoup de conséquences, notamment sur, par exemple, le trafic interquartier ou intraquartier, mais aussi en ce qui concerne les interventions des forces de l'ordre, notamment lors des patrouilles nocturnes.
Oui, effectivement, c'est un constat vrai. Et c'est depuis l'année passée et les délabrements ou la destruction de ces ponts ou de passerelles s'est réduit surtout avec les inondations des rivières ou des ruisseaux dans la ville de Bunia. Avec l'inondation, ces ponts ou ces passerelles ont été soit complètement détruits ou partiellement, rendant difficile la communication entre les quartiers, donc intra-communaux ou intercommunaux, et aussi ayant de pacte sur les interventions rapides des services de sécurité au cas où il y a des alertes, par exemple des cas de cambriolage, et cela impacte sur les réponses à apporter à ces cas d'alerte, parce que ces services doivent prendre de longs trajets pour arriver, et des fois ils arrivent lorsque les auteurs se sont déjà enfuis, et toujours difficile de gérer les situations. D'où les souhaits et la recommandation ou la proposition des services de la protection civile dans le cadre de la réduction ou gestion des risques dits aux phénomènes ou catastrophes ou aléas naturels serait de voir comment les autorités et ou le partenaire pouvaient mobiliser des capacités ou des moyens afin de reconstruire ces infrastructures, les ponts et le passerelle, pour encore permettre la reprise normale de la circulation entre les quartiers ou les communes, et surtout pour renforcer et réduire l'état d'intervention pour les services de sécurité à cas d'alerte.
Robert Ndjalonga, je vous dis merci.
C'est à nous de vous remercier.
Notre invité était avec Jean-Claude Loki Dile. 19h20 à Bounia, à Ituri. Par ici s'achève ce journal, mis en onde par Polydor Basunga. La supervision des Pele Kipela Mondo. Merci pour votre attention.